Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Maïder Gérard, Léa Capuano, Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée ce matin par Rafik Zénine et à la technique Jean Frédérics. Cette semaine, dans Culture Monde, une série consacrée à l'Espagne qui vote ce dimanche pour renouveler son Parlement. Fractures espagnoles, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours en 4 épisodes. Demain, mardi, nous ferons le bilan de près de 15 années de crise économique. Le pays s'est-il vraiment relevé et à quel prix? Mercredi, focus sur les droits des femmes, l'un des sujets importants de cette campagne. Et enfin, jeudi, nous aborderons cette épineuse question de l'unité espagnole alors que le procès des indépendantistes catalans n'en finit pas de diviser la classe politique. Mais ce matin, on parle des enjeux de ces législatives. Parti politique au bord de la crise de nerfs, c'est notre sujet ce matin.
Les annoncios.
Je vous annonce que dans le cadre des fonctions que j'exerce en tant que président du gouvernement espagnol et avec, au préalable, la délibération du Conseil des ministres, j'ai proposé la dissolution des chambres parlementaires et la convocation d'élections générales pour le 28 avril.
Madrid, Europa, 31 de enero de 2015, año del cambio. Podemos soñar, podemos vencer.
Un pueblo abandonado por su gobierno que ha pactado con todos los enemigos de España, que ha pactado con los que han dado un golpe separatista en Cataluña, con los que nunca han condenado los asesinatos de los concejales socialistas en el País Vasco, con aquellos que nos quieren llevar al comunismo y acabar con nuestras libertades, con aquellos que empuñan todas las banderas.
Ce dimanche 28 avril, les Espagnols se rendent aux urnes pour élire un nouveau Parlement, des législatives anticipées convoquées par le gouvernement socialiste, faute d'être parvenu à faire adopter son projet de loi de finances en février. Les gouvernements minoritaires et instables se succèdent depuis quelques années en Espagne, alors que la droite et les socialistes se partageaient le pouvoir depuis le retour de la démocratie. Il leur faut désormais composer avec de nouveaux acteurs qui comptent bien se faire leur place dans le paysage politique. Dernier arrivé dans l'arène, le parti Vox, une formation d'extrême droite qui a créé la surprise en décembre dernier lors des élections régionales en Andalousie. Et déjà en 2015, c'était Podemos, un nouveau parti de gauche radicale né du mouvement des indignés, qui avait fait sensation en remportant un peu plus de 20% des suffrages. Alors face à cet émiettement politique, comment les partis traditionnels tentent-ils de garder la main? Quels sont les nouveaux rapports de force? Le prochain gouvernement parviendra-t-il à construire une majorité stable? Ou bien l'Espagne est-elle condamnée à l'instabilité politique? Bref, quels sont les enjeux de ce scrutin dimanche? Eh bien, nous allons en discuter en direct jusqu'à midi ce matin. Et ils sont deux invités pour répondre à toutes ces questions. Nassima Baron, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes géographe, enseignante à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, co-auteur avec Barbara Loyer de L'Espagne en crise, une géopolitique du 21e siècle. C'était paru aux éditions Armand Collin en 2016. Et deuxième invité est en duplex depuis les studios France Bleu Hérault à Montpellier, que je salue et que je remercie au passage de vous accueillir. Bonjour Hubert Pérez.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine, le CEPEL, au CNRS, et vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier 1. Vous êtes l'auteur, co-auteur de La démocratie espagnole, institutions et vie politique, et c'était paru aux presses universitaires de Rennes en 2016. Alors, selon les sondages, sondages dont il est difficile de se fier pour le moment, mais 41% des électeurs affirment qu'ils ne sont pas encore décidés sur le bulletin qu'ils vont glisser dans l'urne ce dimanche. Hubert Pérez, est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, à moins d'une semaine des élections, tout est encore possible?
Ah oui, le jeu est complètement ouvert, même s'il y a des tendances tout de même. Hein. Si on sait que les sondages ont évolué tout au long de la campagne. Lorsque les élections étaient convoquées, les premiers sondages ont indiqué que la droite, les trois partis de droite, y compris l'extrême droite dont vous avez parlé, pouvaient recueillir une majorité absolue au Parlement. Les derniers sondages ne le laissent pas penser. Par contre, il y aurait encore un doute sur la possibilité de former une majorité de gauche qui soit viable et stable, mais avec effectivement... À la fois ce degré d'indécision et puis cet inconnu de la participation qui joue un rôle très très important dans les équilibres politiques parlementaires en Espagne. Tous les scénarios sont encore possibles.
Vous évoquez cette question de la participation. Est-ce qu'on s'attend à une abstention forte des Espagnols sur ce scrutin ?
Eh bien écoutez, on n'en sait rien et c'est très difficile de le prévoir. Les élections législatives en Espagne ont des taux de participation qui varient grosso modo entre 80% et un peu moins de 70%. Et ça peut varier très fortement d'une élection à l'autre. En les élections de décembre 2015, qui sont les avant-dernières, il y avait eu une assez forte participation de presque 75%. Ça avait baissé pour les élections de 2016, après que le Parlement élu avait été dissous parce qu'on avait été incapable de former un nouveau gouvernement. Donc c'est très difficile de le savoir. Mais ce que l'on sait, c'est qu'une forte abstention généralement bénéficie plutôt aux partis de droite et que ce sont plutôt des électeurs qui seraient susceptibles de voter pour la gauche qui s'abstiennent. C'est au moins comme cela que les politistes en Espagne regardent la chose.
Nassima Baron, un jeu politique très ouvert, c'est également votre analyse ?
Oui, je pense qu'il y a une double crise. Il y a un système de partis qui est en crise. Vous nous avez donc expliqué que le bipartisme, donc du Parti populaire côté droite et du Parti socialiste espagnol, a structuré la vie politique espagnole pendant 4 décennies. En 2015, donc avec l'irruption de Podemos et Ciudadanos, on est passé à un système à 4 partis. Bon, avec là déjà l'idée qu'il va falloir renouveler un peu les formules d'articulation de ces partis. Aujourd'hui, on est à 5 et je crois que ce système de partis est en crise. Outre l'incertitude, on est sans doute dans un scénario d'instabilité. Ces élections générales ont été avancées et qu'il va... Évidemment, tous les partis partent avec l'idée de rassembler le plus de votes, mais je pense que chacun aussi d'entre eux réfléchit à la manière de constituer des coalitions et à s'entendre pour garder au moins une gouvernabilité sur quelques mois, quelques années et avancer.
Et ce qu'il faut bien comprendre concernant donc le système politique espagnol, c'est que jusqu'à présent, voilà, on l'a dit, le paysage politique était dominé par 2 grands partis, à droite, à gauche, et donc il n'y avait pas forcément nécessité pour les partis, une fois arrivés au pouvoir, à créer une coalition, à négocier Absolument. Des alliances avec d'autres partis. Donc, d'une certaine manière, les partis politiques n'ont pas cette habitus-là, cette culture-là. Est-ce que néanmoins, depuis quelques années, ils commencent à devoir s'efforcer, négocier, faire des compromis, lâcher sur certaines parties de leur programme ?
Oui, oui, la situation est compliquée dans la mesure. Alors, dans l'actualité, là, les médias sont focalisés sur le débat. Il y aura débat télévisé pendant plusieurs semaines. Voilà, la chose était mise de côté par les principaux ténors des différents partis. Et là, deux débats vont avoir lieu en 48 heures. Donc, des échanges plus directs vont se mettre en place parce que c'est une campagne qui est très idéologique, dans laquelle chacun des partis essaye de garder son électorat. Le PSOE, voilà, challengé côté Podemos. La droite, le PP, qui est maintenant lui aussi très inquiet de la montée en puissance à la fois de Vox sur sa droite, la droite de la droite, et puis côté Ciudadanos, un centre qui a quand même des paroles assez, comment je peux dire, assez radicales sur la protection d'un État contre la corruption, l'intégrité, mais qui en même temps est obligé lui-même de faire alliance, a dû faire alliance jusqu'à présent pour gouverner en région, et donc par exemple en Andalousie. Et donc voilà, il y a le pragmatisme et il y a en même temps une certaine polarisation idéologique, et là c'est un exercice d'équilibrisme pour chacun des partis.
Hubert Pérez, Nassima Baron a parlé de crise du système politique. Est-ce que la fin du bipartisme et l'émergence de nouveaux partis, donc maintenant 5 partis importants, plus évidemment les partis régionaux. Est-ce que vous aussi avez l'impression qu'il s'agit d'une crise du système politique, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir peut-être le signe d'un renouvellement aussi, d'un renouvellement de la démocratie espagnole ?
Alors moi, je n'emploierai pas le mot de crise. Effectivement, c'est une crise au sens où le bipartisme qui avait fonctionné entre 1982 et en gros 2014, effectivement, n'existe plus et qu'on ne voit pas dans quelles conditions il pourrait se reconstituer. Et donc, on est dans une phase nouvelle, mais une phase dont la reconstruction a déjà commencé. Je mettrai une petite nuance sur la difficulté des partis à se coaliser. D'abord, il faut savoir que même dans la période de domination du bipartisme, très souvent, le parti dominant devait s'allier pour avoir la majorité absolue avec de plus petits partis, et ça passait en particulier par des alliances avec les partis catalans ou avec les partis basques. Et ceci s'est déroulé à de très nombreuses reprises. Ensuite, effectivement, aux élections de 2015 puis de 2016, on sentait vraiment un flou très très important, et les alliances pouvaient aller dans des directions différentes. Par exemple, en 2015, Pedro Sanchez, le socialiste, avait essayé une alliance avec ceux qu'on considérait alors comme des gens de centre-gauche, de Ciudadanos. Ça n'avait pas véritablement marché, mais on sentait qu'il y avait plusieurs formules de coalition possibles. Ici, là, les choses sont quand même relativement plus carrées. C'est-à-dire que nous savons déjà que le PSOE et Podemos, c'est-à-dire la gauche, sont tout à fait disposés à s'allier ensemble. De l'autre côté, on sait que les trois partis en fait de droite, maintenant, puisque Ciudadanos a viré assez largement comme un parti, disons, de droite libérale, ils sont tout à fait prêts, ils l'ont fait en Andalousie, à se coaliser. Et donc, si ces trois partis ont la majorité, il y aura une coalition, à moins que le parti d'extrême droite fasse monter les enchères de façon tout à fait considérable. Vous avez encore ce matin une interview d'Albert Rivera, le leader de Ciudadanos, qui indique qu'il est tout à fait prêt, effectivement, à s'allier avec Vox. Donc, on sait qu'il y a une alliance de droite possible. À gauche, le gros problème, c'est de savoir si une alliance du PSOE avec Podemos serait suffisante pour obtenir la majorité. On est pratiquement sûr que ce ne sera pas le cas. Il aura besoin du Parti nationaliste basque, et ça, il l'obtiendra sans problème. Mais l'immense problème, c'est le cas de figure dans lequel la gauche ne pourrait avoir la majorité qu'en obtenant une alliance avec les partis indépendantistes catalans.
Et oui, précisément,
et ça, c'est un énorme problème, parce que eux feraient monter les enchères.
Oui, Hubert Pérez, rappelons que vous l'avez dit, effectivement, il y avait... Alors, juste préciser, quand vous dites le PSOE, pour que tout le monde comprenne, il parle donc du Parti Socialiste, voilà. ouvrier espagnol. Vous l'avez rappelé, le Parti Socialiste a régulièrement fait des alliances avec les partis indépendantistes, mais précisément sur la dernière alliance, la coalition est tombée et si des élections législatives ont été convoquées de manière anticipée, c'est bien parce que cette alliance a dysfonctionné, ou en tout cas que les indépendantistes catalans ont finalement décidé de ne pas soutenir le gouvernement sur sa loi de finances. Donc c'est effectivement une alliance qui commence à poser problème, et évidemment dans le contexte du procès des leaders indépendantistes catalans suite au référendum interdit, qui est une question très épineuse. Donc on peut imaginer que le PS va essayer de tout faire pour éviter une alliance avec les indépendantistes.
Ça va dépendre évidemment du résultat des élections, mais il est évident. Alors il peut tenter deux choses. Il peut tenter de nouveau un gouvernement minoritaire, mais comme ça a été le cas depuis un an. Et donc de faire en sorte que les indépendantistes finalement se rallient plus ou moins au vote du budget, ou n'aient pas la tentation, comme ils l'ont fait cette fois-ci, finalement de refuser le budget, de faire tomber le gouvernement, de provoquer de nouvelles élections. Ce qui est certain, ce qui a changé très profondément, c'est que maintenant la question catalane est une question de qui tout double. On s'allie avec vous à la condition que vous acceptiez finalement un référendum d'autodétermination, ce que le Parti Socialiste n'est absolument pas décidé à faire. Et il ne peut même pas d'ailleurs discuter profondément de cette question dans la campagne électorale, parce que la montée de l'extrême droite et la force même de la droite, et ce sur quoi elle joue aujourd'hui dans cette campagne électorale, c'est de dire finalement, si vous votez pour le PSOE, si vous votez pour les socialistes, en réalité vous votez pour les indépendantistes catalans. Donc là, il y a un piège que Pedro Sanchez essaye à tout prix d'éviter, et il parle très très peu de cette question. Il n'évoque pas la question d'une alliance possible avec les indépendantistes. Mais évidemment, cette question risque de se poser très fortement au soir du scrutin.
Nassima Baron.
Oui, on est dans une disjonction entre des postures, et tous les leaders, donc les principaux leaders de ces partis, prennent des postures, se positionnent par rapport aux autres, à des dimensions idéologiques, mais il faudrait aussi parler des programmes électoraux et des bases électorales, qui sont à la fois des bases, j'allais dire, correspondant à des groupes sociaux, mais aussi qui sont géographiquement localisés, ce qui est très important.
Aujourd'hui, les programmes ne sont pas au cœur de la campagne, c'est ça que vous voulez dire? On n'entend pas beaucoup parler du contenu, des mesures, etc.
Ces questions, on entre tout de suite dans une question, j'allais dire, un petit peu entre guillemets de cuisine électorale, hein, qui va s'allier avec qui, mais sur quelle base? C'est quand même peut-être aussi ce que les électeurs attendent. Comment va être gouverné et sur quels axes? À court terme, bon, c'est problématique du procès qui est un peu une épée de Damoclès, mais à long terme, comment on répond quand même aux questions profondes de développement économique, répondre aux problématiques de l'inégalité sociale, à la question du modèle territorial. Ce sont des questions certes permanentes, certes quasi éternelle. Mais en même temps, c'est peut-être aussi les vrais sujets. Vox, par exemple, a carrément dit que c'est un sujet que, enfin, ce problème ne l'intéressait pas. On est dans les symboles, on est dans l'Espagne, présenter le drapeau, parler des taureaux, parler de ce qui est émotionnel, de ce qui est un peu romantique en Espagne. Mais et puis voilà, les questions, j'allais dire basiques, des citoyens semblent un petit peu mise de côté.
Alors, justement, les socialistes, pour le moment, les socialistes donc sortants, sont donnés favoris. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces relatifs bons sondages pour le Parti socialiste ? Est-ce que, d'une certaine manière, les Espagnols plébiscitent le début de l'action du gouvernement ? Donc, dans cette fameuse loi de budget qui a été retoquée, il était prévu des dépenses sociales, le retour d'une sorte d'État-providence après la crise. Pour aller justement dans le cœur des programmes, est-ce que c'est ça que les Espagnols attendent et plébiscitent d'une certaine manière avec ce sondage, voilà, les socialistes favoris.
Le Parti socialiste espagnol, enfin la personnalité de Sanchez, d'abord c'est un peu un survivant parce que il s'est présenté aux primaires du Parti socialiste. C'est relativement nouveau visage. Il y a une vieille garde socialiste qui est toujours derrière, autour au sein du PS, mais il a réussi à s'affirmer face à des baronnies socialistes comme en Andalousie, par exemple Susana Díaz, qui n'était pas, le moins qu'on puisse dire, sa meilleure alliée. Il a aussi d'autres fiefs territoriaux socialistes devant lesquels il y a des difficultés importantes. Je pense à la communauté valencienne, qu'il soutient, mais quand même un peu à moitié. Et il a donc été vainqueur de cette motion de censure. En 2018, il a fait partir Rajoy et il a fonctionné comme un véritable stratège, comme une personnalité déterminée en essayant de mettre en avant les questions, vous le dites, de ce qu'on appelle l'État-providence, donc de donner un tournant social sans se démarquer toutefois, évidemment, des approches très, très idéologiques de Podemos, mais en essayant de mettre en avant les problématiques de la santé, les problématiques qu'attendent les Espagnols.
Est-ce que Pedro Sanchez, donc l'actuel chef du gouvernement, représente l'aile gauche du Parti Socialiste ? C'est comme ça qu'on peut le catégoriser ?
C'est quelqu'un qui essaye qui veut se donner une stature, qui a une stature présidentielle, donc aujourd'hui, qui est un petit peu à la fois du PSOE, mais qui a aujourd'hui veut aussi représenter et représente l'Espagne. Et je dirais qui a envie de parler des défis de l'Espagne à long terme. C'est pas simplement le chômage, la pauvreté, l'inégalité sociale. C'est aussi, par exemple, une problématique beaucoup plus, j'allais dire, structurelle de productivité. Les questions éducatives, c'est les questions de l'égalité des chances à venir un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui doit être remis, enfin qui est un peu dans le credo socialiste et qui doit être remis sur la table.
Hubert Pérez, il faut rappeler que le PS revient de loin. Il y a quelques années, le parti d'extrême gauche Podemos avait failli mettre les socialistes hors jeu. C'était quelque chose d'assez inédit en Espagne et même en Europe. Est-ce que aujourd'hui, le PS est parvenu à reconquérir son électorat de gauche ?
Ben écoutez, il faut souligner que c'est l'un des partis sociaux-démocrates et peut-être le seul en Europe qui se porte relativement bien, si l'on en croit aujourd'hui les sondages. C'est un parti qui gouverne et c'est un parti que les sondages donnent en tête. Il faut effectivement souligner que la manière dont Pedro Sanchez a géré toute cette affaire a été très bonne dans son contexte. C'est-à-dire qu'il a été soumis à la pression de Podemos qui a présenté le Parti Socialiste comme un faux parti de gauche, et en réalité, Pedro Sanchez a su au gouvernement, en quelques mois, donner un certain nombre de gages par des décrets, par des réformes, dont la plus emblématique est l'augmentation du SMIC, mais ce n'est pas la seule réforme, et sur d'autres plans également, comme sur celui de ce qu'on appelle la mémoire historique. Il a décidé de transférer la dépouille de Franco, par exemple. Bon, donc il a extrêmement bien joué. Alors il a été aidé par les circonstances, parce que l'économie espagnole est une économie qui a une croissance forte, de plus de 2% là, depuis quelques années. Elle a une croissance plus forte que la zone euro en général, ce qui fait qu'il a pu à la fois faire des dépenses publiques qui lui donne des gages sur sa gauche et en même temps ne pas trop faire déraper les choses. Et il se présente donc du point de vue économique et social donc comme un parti raisonnable qui ne va pas aux extrêmes parfois comme Podemos, mais qui en même temps assure la satisfaction de demandes sociales qui sont très fortes après des années de crise extrêmement dures. Et sur le plan de la question territoriale, il fait la même chose. Il dit d'ailleurs, Pedro Sanchez emploie l'argument de « nous sommes le seul parti modéré, nous sommes le seul parti raisonnable finalement dans les circonstances actuelles parce que nous voulons discuter avec les Catalans. Parlement. Il n'est pas question d'être dur, d'appliquer, comme le réclame la droite de façon permanente, l'article 155 qui permettrait au gouvernement de Madrid de gouverner les institutions catalanes. Il faut donc discuter, mais en même temps, nous ne voulons pas d'un référendum d'autodétermination. On veut chercher une solution politique dans les cadres de l'État actuel, peut-être de passer à un État fédéral. Et donc, il représente une sorte de voie moyenne, plus axée à gauche sans doute que ne l'était le précédent gouvernement de socialiste de Zapatero. Et en même temps, sur les questions territoriales, il essaye de tenir un équilibre qui n'est pas un équilibre facile. Donc, il représente tout de même à la fois les espoirs et la tentation d'une partie importante de la société espagnole, qui n'est pas majoritaire. Hein. Encore une fois, les sondages lui donnent environ 30%, mais il a su conquérir cet espace en marginalisant un petit peu Podemos sur sa gauche et en rejetant assez largement, mais il y a contribué de lui-même, Ciudadanos comme un parti qui est devenu vraiment un parti de droite.
Alors c'est quand même étonnant, vous dites une stratégie de voie moyenne qui a l'air de porter ses fruits, mais il y a quelques années, le succès du parti radical de gauche Podemos, né, rappelons-le, sur le mouvement des indignés et le mouvement du 15M, pouvait faire croire aux observateurs, aux analystes, à une appétence pour les électeurs espagnols, pour un parti de gauche beaucoup plus radical. Qu'est-ce qui est arrivé à Podemos? Pourquoi le parti? Alors aujourd'hui, le parti est en difficulté, il est très divisé, il y a des problèmes de gouvernance, mais au-delà des problèmes internes d'appareil, qu'est-ce qui est arrivé à Podemos? Nassima Baron et puis Berberes.
Je voudrais juste ajouter, pour terminer sur le bilan qu'on peut faire du PSOE, que ce parti a quand même devant lui une réflexion profonde sur le modèle territorial. Certes, clarifier les compétences, la répartition des compétences entre l'État et les communautés autonomes, parce que le Parti Socialiste parle toujours d'offrir plus de compétences d'autogouvernement. Vous savez qu'un certain nombre de communautés les demandent de manière véhémente. Et qu'est-ce qu'on peut donner de plus sans une autonomie fiscale absolument complète? Comment on peut vivre avec cet indépendantisme catalan qui représente une réalité évidemment humaine et électorale? Donc il y a ce premier sujet de fond, je crois, que les socialistes doivent continuer à creuser. Et je crois qu'il y en a un deuxième qui est de réfléchir au fait que leur électorat est relativement vieillissant. Et justement, quand on va voir des progressistes, des gauchistes en Espagne, c'est vrai que plus ils sont jeunes, plus ils sont en général radicaux, et on passe à Podemos, donc comme problématique, si j'ose dire. Bon, Podemos, c'était c'est un parti récent qui a lui-même retravaillé, transformé des mouvements à la fois associatifs et politiques de la gauche communiste, progressiste, éco-socialiste.
Pablo Iglesias, son actuel leader, est un militant de longue date du Parti communiste.
Voilà. Alors, il parle à un électorat plus jeune, plus idéologisé et beaucoup plus sensible aux problématiques sociales. Donc, c'est là, Iglesias dit aussi que, allez, le salaire minimum, il a forcé, hein, enfin, il a poussé, il a permis à Sanchez de le faire voter, que c'est grâce à lui, et que on doit aller encore plus loin, car les indicateurs quand même de pauvreté, de risque de pauvreté sont dramatiques dans certaines villes espagnoles. Je crois que ça a été quand même le bofetón, la gifle qu'a représenté la réalité par exemple de l'accession au pouvoir d'un certain nombre de d'équipes municipales, par exemple depuis 2015, dans lesquels Podemos n'était quelquefois présent, quelquefois représenté à travers des candidats appartenant plutôt à des mouvements sociaux, des mouvements anti-éviction, etc., qui se sont qu'ont directement touché la matière politique, l'action politique, et qui ont fait face aux difficultés, aux lenteurs, aux rigidités, aux inerties, aux contradictions, aux conflits internes, qui peut-être marquent aussi la difficulté que représente l'exercice d'un gouvernement effectif et la mise en parallèle donc des attentes, des utopies et puis de la réalité du pouvoir.
Hubert Pérez, votre regard à vous sur le parti Podemos et le fait que ce parti, après un énorme succès, commence un petit peu à marquer le pas?
Alors, bon, en préambule, il faut dire qu'on a été très très attentif en France à l'émergence, effectivement, de Podemos dans les années 2014-2015. Il ne faut pas oublier qu'aux élections de 2015 et de 2016, Ciudadanos, qui n'était pas un parti tout à fait neuf, qui était né en 2006, a eu également des résultats très importants. D'ailleurs, en Espagne, on appelait les deux partis, Podemos et Ciudadanos, des partis émergents. Alors, Podemos a fait mieux aux élections de 2016 et de 2015. En 2016, 21% contre 13% à Ciudadanos, mais le bipartisme a éclaté sous l'effet de l'apparition de ces deux partis émergents. Alors maintenant, si on en revient à Podemos lui-même, je crois qu'il y a quatre facteurs dont il faut tenir compte pour comprendre comment ce parti, finalement, est dans une phase plutôt de stagnation et atteint un rebond. Le premier, c'est qu'il connaît une crise interne très forte, hein, une crise qui s'est manifestée publiquement il y a peu avec le départ de l'ancien numéro 2 de Podemos, Iñigo Errejón, et d'une manière générale, il y a un grand débat sur le modèle de parti de Podemos, sur son organisation interne, sur le poids très très important du leadership de Pablo Iglesias. Le paradoxe, c'est que Podemos est né d'un mouvement effectivement citoyen très large, mais en même temps, il a construit une formation qui est très centralisée et qui est relativement rigide, avec la parole qui est souvent donnée aux militants, mais elle l'est donnée sur l'initiative du chef. Et donc, il y a eu une contestation interne très forte qui dure encore sur l'organisation et sur la nature du leadership de Pablo Iglesias. La deuxième chose, c'est que, comme vient de le rappeler Nassima Baron, en fait, Podemos s'intègre dans tout un mouvement de plateformes d'associations citoyennes qui sont souvent extrêmement fortes à l'échelle municipale ou à l'échelle des autonomies. Ada Colau, la maire de Barcelone, et Manuela Carmena, la maire de Madrid, ne sont pas des membres de Podemos, mais ils ont gouverné avec des coalitions larges, locales, dans lesquelles Podemos est présent. Et c'est aussi ce qui leur a permis d'avoir des résultats importants aux élections de 2016, parce qu'on a la marque, en 2016, c'était Unidos Podemos, mais en fait, se sont agrégés à ça d'autres coalitions en Galice, à Valence, en Catalogne, dans lesquelles Podemos est simplement une des composantes. Or, là aussi, il y a des tiraillements très forts. Et par exemple, en Galice, on a assisté à une dissociation entre les anciens alliés de Podemos et Podemos lui-même, donc ce qui complique la chose. Et donc, on voit qu'il y a à la base une contestation, finalement, du projet de Podemos de devenir le leader incontestable de toute la gauche radicale espagnole. Le troisième facteur, c'est la question catalane. Ça, c'est très important parce que Podemos a une position que l'on peut juger également raisonnable sur la question catalane, qui est de dire il faut trancher ce débat par des moyens démocratiques, et donc il est favorable à un référendum d'autodétermination. Alors, ce qui lui aliène énormément de gens, même à gauche, qui en Espagne ne veulent pas entendre parler de la sécession de la Catalogne. Mais en même temps, il dit déjà qu'il, dans ce référendum, lui serait contre l'indépendance. Il est favorable à la perpétuation de l'unité de l'Espagne sous une forme fédérale, sous une forme améliorée de reconnaissance de la plurinationalité. Enfin, il n'est pas favorable à l'indépendance catalane. Alors, ce qui lui vaut le rejet, évidemment, d'une partie des Catalans dans une société qui est devenue très polarisée. On est pour ou contre l'indépendance. Et oui, ceci affaiblit considérablement le poids de Podemos.
Puis, j'en profite
très rapidement. Oui. Le dernier facteur, c'est celui que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire que Pedro Sanchez et le Parti Socialiste ont bien joué, donc ils ont privé, évidemment, de la possibilité de conquérir plus de territoire à gauche, Podemos.
Oui, j'en profite sur ce troisième point, la question catalane et la manière dont elle divise la classe politique. Est-ce que vous pensez, Hubert Pérez, que à ce stade, deux partis qui n'auraient pas la même vision de la manière de régler la question catalane ne peuvent absolument pas s'allier aujourd'hui, tellement cette question de la crise catalane est devenue un facteur de clivage et de division?
Quand vous dites deux partis, vous pensez à Podemos et au Parti Socialiste ou vous pensez au Parti Catalan et au Parti Socialiste? Parce que ce sont deux choses différentes.
Pas forcément, mais en tout cas, voilà, l'idée de ne pas avoir ni le même diagnostic, ni les mêmes préconisations pour régler cette question. Quand Podemos dit il faut le régler ça par les urnes, on n'est pas pour une partition de la Catalogne, mais il faut régler ça par les urnes. Apparemment, ils sont quand même les seuls à être sur ces positions-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourraient s'allier avec personne d'autre?
Non, alors, voilà. En 2015-2016, ça a été un des facteurs qui a rendu très difficile la conclusion d'une alliance avec le Parti Socialiste et Podemos. Parce que Podemos faisait de l'acceptation par les socialistes d'un référendum d'autodétermination une ligne rouge, une condition sine qua non. Or, aujourd'hui, dans la campagne électorale, bien Pablo Iglesias et Podemos parlent très très peu de la question catalane. Ils mettent en avant la question sociale. Et d'une manière même tout à fait étonnante, par exemple, puisque il y a encore quelques mois, ils mettaient en accusation la constitution issue du régime de la transition démocratique. démocratique qu'ils estiment incomplète et qui ne permet pas, la Constitution espagnole ne permet pas la tenue d'un référendum d'autodétermination en Catalogne, et que dans cette campagne électorale, ils font exactement le contraire. Ils reparlent de la Constitution, mais évidemment sous l'angle des droits sociaux qui sont accordés par la Constitution espagnole, comme la plupart des constitutions des pays démocratiques, sur le droit au logement, sur le droit à une vie digne, sur le droit au travail, etc. etc. Et Podemos fait une campagne consistant à dire qu'il faut appliquer la Constitution dans ses droits sociaux, et il évoque très très peu la question catalane. Et en tout cas, il n'en fait plus une question fondamentale pour s'allier avec le Parti Socialiste. Donc il a de lui-même finalement mis cette question un peu au second plan. Alors la question est très différente si le Parti Socialiste et Podemos ont besoin des voix des indépendantistes catalans. Là, on est devant une sorte de blocage dont on ne sait pas comment on peut sortir. Parce que dans l'état actuel des choses, y compris les plus modérés, entre guillemets, des nationalistes catalans qui sont devenus indépendantistes, pour eux, l'horizon de l'indépendance est un horizon indépassable. Et donc, ils conditionneront dans l'état actuel des choses, à court et à moyen terme, ils conditionneront leur appui à une perspective de sortie de cette crise qui serait favorable à l'indépendance de la Catalogne.
Et cela complique, et ça fait partie de la complexité des enjeux de ce scrutin. Nassima Baron, sur ces questions.
Quand on dit sortie de crise, il faut regarder un peu le calendrier et puis aussi la temporalité. On est devant une accumulation de rendez-vous électoraux. Vous savez, 2019, c'est les élections générales, il y a les européennes, et puis dans un mois, il y a les municipales. C'est important pour Podemos, du fait de cet ancrage local dont on vient de parler. Et puis, il y a le procès catalan. Alors, quand est-ce que ce procès aussi, qui est aujourd'hui beaucoup centré sur les auditions des Mossos d'Esquadra, de la police, de la garde civile, du rôle qu'ils ont joué lors du référendum d'autodétermination. Alors, quelle va être la temporalité de la justice ? En Espagne, c'est un véritable sujet, car le problème catalan, il est aussi lié, je voudrais pas faire trop d'histoire, mais au fait qu'un statut avait été mis en place, voté régionalement en 2006, et que c'est le tribunal suprême qui, en 2010, l'a cassé. Donc, c'est problématique de désynchronisation finalement et de calendrier, de conjonction du court terme et du long terme, politiques sont très importantes. En tout cas, bien entendu, des chiffres vont sortir et des majorités vont sortir des urnes là, le 28 avril, mais je crois que les prochains rendez-vous électoraux vont aussi être pris en compte et qu'on va être là sur plusieurs semaines, voire peut-être un petit peu plus, d'organisation, de réorganisation du scénario et du panorama politique.
Permettez-moi, premièrement, en tant que porte-parole du groupe parlementaire que j'ai l'honneur de représenter,
Vox, compartir con ustedes nuestra gran alegría por estar hoy representando.
Partager avec vous notre grande joie de représenter et défendre les convictions de presque 400 000 Andalous.
Entramos en esta casa, en el Parlamento de Andalucía.
Nous entrons dans cette maison,
de ser la
le Parlement andalou, avec la fierté d'être la force politique décisive qui a favorisé le changement en Andalousie.
Después de 36 años de gobiernos socialistas en la Junta.
Après 36 ans de gouvernement socialiste, Vox est le parti qui a permis l'alternance démocratique qu'ont réclamé les Andalous. Oui, vous avez bien entendu, l'alternance démocratique.
L'alternativa democrática.
Premier discours de Francisco Serrano, le président du groupe parlementaire Vox au Parlement andalou, c'était le 16 janvier dernier. Vox a donc créé la surprise en décembre 2018 en Andalousie en emportant 12 sièges au Parlement régional. Dans cette Espagne qui se croyait à l'abri, entre guillemets, de l'extrême droite, qu'est-ce qui explique le succès de Vox ? Est-ce que c'est une nouvelle donne liée à un contexte local, andalou, ou est-ce que c'est un phénomène plus global à l'échelle nationale espagnole, Hubert Pérez ?
Bien, ce sont les deux choses à la fois. On a pu écrire que l'Andalousie était la situation parfaite pour Vox, parce que on a à la fois une résonance extrêmement forte du conflit catalan, et ça a été un élément très très important, très probablement dans l'émergence très forte de Vox, hein, qui existe depuis fin 2013-2014. C'est un parti qui est né à peu près en même temps que Podemos, mais dont les résultats électoraux sont restés jusque-là extrêmement faibles. Et il y a encore quelques mois, les meilleurs spécialistes de la vie politique espagnole Espagnol disait qu'il y avait très peu d'espace pour l'émergence d'une force d'extrême droite en Espagne. Ils ont été très fortement démentis. Donc en Andalousie, évidemment, on regarde d'un œil très très particulier ce qui se passe en Catalogne, parce que on sait chez un certain nombre de nationalistes catalans qu'il y a une idée selon laquelle la Catalogne, elle fait vivre une Espagne qui ne travaille pas assez, en particulier l'Andalousie, et qu'on ne veut pas payer pour les régions les plus pauvres d'Espagne. Et donc là, il y a un sentiment anti-catalan qui est assez fort, et comme parallèlement dans la crise catalane, l'idée de la nation Espagne unie, les drapeaux espagnols qui ont été ressortis, ont finalement décomplexé ceux qui sont des partisans de l'unité de l'Espagne et ceux qui sont des nationalistes espagnols, un nationalisme qui s'est très peu exprimé, qui était plutôt un nationalisme honteux du fait de ce qui s'était passé sous le franquisme pendant les années après la transition, ça a fortement décomplexé les choses.
Hubert Pérez, pour bien comprendre, pardon, pour vous, il y a un lien direct entre la crise catalane et l'émergence de Vox ?
Oui, incontestablement. Je pense que ceci a permis de cristalliser chez un grand nombre de gens qui ont des opinions de droite d'extrême droite, qui sont très attachés à l'unité de l'Espagne, a permis finalement de décomplexer l'affichage de cette façon de s'orienter dans la vie politique et de regarder son histoire. Et d'autre part, il y a eu une espèce une course à l'échalote sur la manière dont il fallait se comporter contre la Catalogne. Ciudadanos et le Parti Populaire ont fait assaut de propos disant, voilà, il faut être ferme, dur avec les indépendantistes. Ciudadanos a dit le Parti Populaire n'a rien fait pour lutter contre les indépendantistes pendant un certain temps. Et on entend ce discours-là, effectivement, également à l'extrême droite, hein, chez Vox, en disant le Parti Populaire, il a laissé se développer cet indépendantisme. Et il faut rappeler, alors ça c'est quelque chose de très important, il y a quelque chose de nouveau dans cette extrême droite par rapport à l'extrême droite très résiduelle qui a existé pendant de très nombreuses années, qui était surtout composée de nostalgiques du franquisme. Là, ce sont des gens qui viennent d'abord, les principaux responsables de Vox, sont des gens qui viennent du Parti Populaire et qui souvent, alors c'est le cas en tout cas du leader Santiago Abascal de Vox, qui viennent du Pays Basque et qui ont été soumis à une très très forte pression de la part de TEA, donc qui étaient soumis au terrorisme. On a des gens, des associations de victimes du terrorisme qui sont impliquées là-dedans, et ils sont extrêmement sensibilisés précisément à la question territoriale et à la lutte contre l'indépendantisme, contre les tentatives de sécession. Et encore une fois, la question catalane, il faut se rappeler que pendant très longtemps on a pensé que seuls les indépendantistes occupaient la rue. Et puis on a vu, après le référendum du 1er octobre, des grandes manifestations, alors pas seulement évidemment de l'extrême droite, il y avait des gens de gauche également dans la rue, mais où on a ressorti les drapeaux espagnols et où la réaffirmation de l'unité de l'Espagne est devenue une valeur qui est discible dans l'opinion publique. On peut de nouveau se réclamer de l'Espagne, de son histoire. Et en Andalousie, évidemment, c'est un thème qui a d'autant plus fortement marché qu'il y a ce sentiment anti-catalan. Et puis on avait un pouvoir socialiste qui était en place depuis la transition démocratique, qui est affecté par un certain nombre de problèmes de corruption, qui d'une certaine façon était très largement épuisé. Et donc, c'était presque la situation idéale pour Vox. Alors, par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les sondages diraient aujourd'hui que Vox pourrait rééditer ce qu'ils ont fait en Andalousie à l'échelle de toute l'Espagne.
Je vais faire réagir également Nassima Baron sur l'émergence de Vox en Espagne.
Tout ça, c'est absolument véridique. Bien sûr, dans les émissions de radio, ça fait bien 15 ans que les journalistes me demandent comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas de parti xénophobe d'extrême droite en Espagne. Et la réponse, c'est mais il y en a. Donc oui, c'est vrai, ils existent depuis longtemps, mais on les localise.
Vox existe depuis 2014.
Oui, mais il y avait une série de micro-partis, d'ailleurs qui sortaient plutôt, j'allais dire, qui apparaissaient aux élections municipales dans les faubourgs de Barcelone, dans les zones caractérisées par un fort taux d'immigration. Et là, on voit apparaître dans une région importante, l'Andalousie, une véritable irruption brutale quand même d'un parti qui arrive à, en s'alliant, à détrôner, il a été dit, un parti socialiste qui avait régné, je n'ai pas d'autre mot, pendant plusieurs décennies. Alors, il y a des ancrages idéologiques, la droite de la droite, on parle de la droite du Parti Populaire, de post-franquisme, de néo-franquisme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une utilisation des symboles nationalistes, un discours très émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de la monstration, voilà, des signes d'appartenance à la nation espagnole qui est revendiquée. Et puis, il y a aussi cette dimension territoriale. L'Andalousie, c'est très grand, hein, c'est très vide aussi. Murcia, la Castille, l'Estrémadour, c'est ce que là-bas on appelle l'Espagne vide. Celle qui souffre justement de ces problématiques de redistribution territoriale, d'un vieillissement, d'une difficulté d'accès aux services publics. Et
puis il y a la question migratoire aussi, parce qu'en Andalousie, il y a énormément de migrants qui travaillent notamment dans les serres d'ailleurs, dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que c'est un lien
Mes chers collègues universitaires madrilènes, Sévillan me faisait remarquer le mois dernier, commence à faire un petit peu
Vox
de géographie
électorale,
que Vox apparaît aussi très fortement dans les régions où on n'a pas d'immigrés, ce qui est quand même un syndrome qu'on connaît aussi en France sous une autre forme. Donc c'est aussi une manière de revendiquer une Espagne dont on parle relativement peu, qui se sent mise de côté, qui se sent en difficulté, peu représentée, et par exemple les chasseurs, hein, qui aujourd'hui font à travers Vox passer des revendications, une volonté d'existence, confisque cette fierté d'appartenance à l'Espagne aux autres partis, hein, qui sont tout aussi fiers et heureux de se dire espagnols, mais aujourd'hui, cette fierté d'être espagnol, elle passe par Vox.
Hubert Pérez, une dernière question rapidement, s'il vous plaît. On va retrouver un nouvel invité. Quelle est la réaction des autres partis politiques par rapport à l'émergence de Vox? On a vu que le Parti populaire s'était allié à Vox en Andalousie. Est-ce que ça veut dire que, contrairement, par exemple, à l'extrême droite en France, il n'y a pas de discours de cordon sanitaire ou de dire que ce parti n'est pas fréquentable ou qu'on ne pourrait pas s'allier avec lui? Comment Vox est perçu par le reste de la droite, notamment en Espagne?
Alors ça, tout à fait. Le Parti populaire non seulement a parfaitement joué le jeu de l'alliance avec Vox, mais sous l'influence de son nouveau leader Pablo Casado, il a considérablement droitisé son discours. Et il y a une course pour dire non, c'est pas la peine que vous votez pour Vox, c'est un parti complètement inutile. Le vrai parti de la droite utile, c'est le Parti populaire, avec des thèmes qui sont extrêmement proches de ceux développé par Vox. Donc le discours du Parti populaire aujourd'hui en campagne est un discours qui est très proche, à une différence près sur une question, alors il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler, la question de la violence domestique, de la violence dite de genre en Espagne, où là le Parti populaire fait très attention, alors que Vox y va carrément en disant qu'il faut démanteler les lois protégeant les femmes dans les situations de violence conjugale.
Nous l'aborderons en détail mercredi.
Voilà. Donc à cette différence près, le Parti populaire tient un discours qui est maintenant très très proche de celui de Vox, et donc il n'est pas question de cordon sanitaire. La grande surprise finalement, ça a été Ciudad Danos, qui se présentait comme un parti de centre-gauche, un parti très libéral et qui a des propositions qui sont effectivement très libérales sur le plan des mœurs, par exemple en faveur de la procréation assistée, de ce qu'on appelle en France la GPA, mais qui n'a fait aucune espèce de ligne rouge disant on ne veut pas s'allier avec Vox, et il le déclare aujourd'hui, il ne verra aucun problème à participer à un gouvernement qui serait appuyé par Vox au Parlement. Donc il n'y a pas de cordon sanitaire. Alors à gauche, on présente évidemment Vox comme le repoussoir absolu, comme alors les indépendantistes catalans peuvent dire, voyez, on a bien raison, ceux qui sont contre l'indépendance de la Catalogne, finalement, ce sont les anciens fascistes, hein, qui reviennent au pouvoir. Et du côté de Pedro Sanchez, c'est également presque un pain béni, parce que ça droitise considérablement ses opposants. Et si vous voulez sauver l'Espagne de l'extrême droite, eh bien, c'est sur le PSOE qu'il faut, il faut voter pour le PSOE. Et d'ailleurs, il voulait absolument qu'il y ait un débat à cinq partis à la télévision, il y aura un débat ce soir, il y aura un débat demain soir, et la junte électorale ne l'a pas permis, mais c'était pour lui l'occasion de dire, voyez, il y a d'un côté les gens qui sont alliés à l'extrême droite, et de l'autre côté, il y a l'Espagne raisonnable, c'est moi.
Et puis certainement pour souligner aussi les divisions à droite. Alors tout de suite, restez avec nous, tout de suite, direction Séville, où on retrouve dans un instant un nouvel intervenant.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
43 ans après sa mort, le futur du mausolée de Franco a ravivé la polémique sur la mémoire de la guerre civile et de la dictature. Le gouvernement renonce à convertir la Bahía de los Caídos en un lieu de recueillement et de paix, comme l'avait prévu au début le Parti socialiste. Il pourrait devenir un cimetière civil. Il propose également une commission de la vérité pour se souvenir de ce qui s'est passé pendant le conflit et le franquisme.
Juin 2018, tout juste arrivé au pouvoir, le gouvernement de Pedro Sanchez annonce son intention de retirer la dépouille de Franco du mausolée de la Vallée de los Caídos, où il se trouve actuellement, et de le transférer dans un cimetière appartenant à l'État au nord de Madrid. Une question extrêmement sensible en Espagne. Bonjour Jean-Baptiste Arguindengui.
Bonjour.
Bonjour, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Professeur,
non, non, presque pas.
Professeur de sciences politiques à l'université Pablo de Olavide à Séville. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ce lieu, la vallée de Los Caídos, est extrêmement sensible dans la mémoire collective espagnole ?
Ah, c'était un lieu qui est un peu un baromètre, on a le Panthéon en France, mais si c'est plutôt le Valle de los Caídos, c'est un baromètre politique intéressant et très important, parce qu'il est l'objet de luttes symboliques et discursives pratiquement depuis les débuts de la transition. La gauche essayant évidemment de le faire disparaître, de le convertir en autre chose, et la droite défendant sa présence comme un lieu de mémoire.
Il faut peut-être rappeler aussi que c'est un lieu qui a été construit sur ordre de Franco entre 1940 et 1958 et qui a été construit en partie par des prisonniers politiques à l'époque.
Oui, c'est ça. C'est un mausolée, comme on en trouve dans d'autres endroits en Europe, mais effectivement qui a été utilisé, on a utilisé pas mal de main-d'œuvre, du coup pratiquement des esclaves, hein, républicains, qui ont été utilisés pour le construire. Il est construit sur des fosses communes, et c'était en gros l'écrin où devait reposer le corps de Franco à sa mort. Donc la charge symbolique, disons, dépasse très largement le lieu en soi, même si effectivement il y a une croix catholique énorme déposée au-dessus, mais disons que sa valeur spirituelle pour la droite ou sa valeur symbolique, disons, pour la gauche est énorme.
Alors comment est-ce qu'il faut interpréter le sens donné à la décision, alors, pas encore exécutée, hein, du gouvernement socialiste, donc de retirer la dépouille de Franco, de la transférer ailleurs, et d'ailleurs, autre question, que va devenir le reste du mausolée ? Est-ce qu'il est prévu d'être détruit ? Mais voilà, déjà, quel est le sens de cette décision ? Est-ce qu'il faut y voir un acte de réparation pour les victimes ? Ou, il faut rappeler qu'une loi d'amnistie, hein, en Espagne empêche des actes de justice, de réparation.
Le fait est que tout ça s'inscrit dans la durée. Déjà en 2007, le Premier ministre Zapatero, le Premier ministre socialiste, avait lancé une nouvelle loi, donc de reconnaissance des victimes de la guerre civile, de la dictature, etc. Donc donnant la nationalité aux membres et aux descendants des brigades internationales, en rouvrant les fosses communes, en finançant tous ces travaux archéologiques, en enlevant les symboles franquistes situés dans l'espace public, les rues, les places, et évidemment le Valle de los Caídos faisait partie de la liste. Alors la question de l'exhumation de la dépouille de Franco et la reconversion du Valle de los Caídos est d'actualité, enfin en tout cas depuis la motion de censure et que le PSOE, le Parti Socialiste, est revenu au pouvoir. Ça a été une des premières décisions mises en avant par le gouvernement Sanchez. Une décision complexe parce qu'au début tout devait être fait très 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 vite et puis finalement il y a eu des réticences de la part d'autres groupes politiques, donc notamment Ciudadanos, le Parti Populaire, Vox évidemment, mais qui n'est pas encore au sein du Congrès. Et donc via les tribunaux tout ça a été freiné. Voilà pour le processus. Alors, ça pose deux questions subsidiaires. Une, que faire avec le Valle de los Caídos une fois que Franco en sera sorti ? Et deux, que faire avec le propre corps de Franco et où le situer ? Alors, on a parlé, enfin la famille Franco notamment a parlé d'une réubication au sein de la cathédrale de l'Almudena, qui est la grande cathédrale de Madrid. Évidemment, le gouvernement est contre, donc avec intercession du pape entre-temps. Il semblerait que, pour l'instant, avec les données qu'on a en main, le Valle de los Caídos pourrait être reconverti en musée de la guerre civile, enfin c'est aux dernières nouvelles, et que le corps de Franco pourrait être enterré ou reenterré dans un mausolée privé de la famille Franco.
Que craint concrètement le gouvernement socialiste avec cette option qui a été avancée par la famille de déposer le corps dans la cathédrale majeure, hein, de Madrid ? Très concrètement, est-ce que le gouvernement craint des processions de nostalgiques du franquisme ?
Mais il y en a déjà. Il existe même une fondation Francisco Franco, donc qui appelle tous les fidèles régulièrement une fois par an pour manifester et se rendre au Valle de los Caídos. Donc c'est un lieu de pèlerinage en fait pour une partie de la droite dure, héritière du franquisme. Évidemment, en plaçant le corps au sein de l'Almudena, on aurait créé un lieu de mémoire partiel, mais un lieu de mémoire après tout, en plein centre-ville de la capitale. Donc évidemment, c'était pas acceptable pour l'exécutif de Pedro Sanchez. D'où la recherche à marche forcée d'une solution alternative pour replacer, disons, et se défaire du corps de Franco qui malgré tout, 40 ans plus tard, est un corps très très encombrant. Alors évidemment, quant à la conversion, reconversion du lieu en soi, Il y a plusieurs projets sur la table. Hein. On a parlé d'un cimetière civil, voire d'un cimetière militaire avec Tuanos, voire d'un musée de la guerre civile, un peu sur le modèle argentin. Pour l'instant, on est encore un peu dans le flou parce que tout ceci donc a été judiciarisé et on est encore devant les tribunaux pendant quelques mois.
D'un point de vue politique, Jean-Baptiste Arguedengui, la droite accuse le PS d'être, je cite, obsédé par Franco et de raviver ses questions pour diviser les Espagnols. Est-ce qu'il peut y avoir effectivement une tentation du PS d'utiliser ces questions à des fins politiques, sachant que ce sujet embarrasse la droite ?
Alors oui, mais je retournerai la question dans l'autre sens aussi. La droite a aussi pleinement bénéficié de cet oubli sélectif qui a eu lieu pendant la transition, où aucune force politique pendant pratiquement 20 ans n'a osé soulever les tapis et regarder ce qu'il y avait dessous. Donc le Parti populaire a pu démontrer, disons, que c'était un parti démocratique, même si beaucoup de ses membres étaient des héritiers, des hauts dignitaires franquistes. Donc disons que la transition a été agi dans les deux sens. Évidemment, le Parti socialiste, mais pas maintenant, pas que depuis l'élection, enfin la motion de censure de Sanchez, mais aussi sous Zapatero, a évidemment utilisé tous ces symboles franquistes et la lutte contre les symboles franquistes comme un instrument sociologique, un instrument en tout cas électoral, pour gagner des appuis, puisque avec le type de transition qui a eu lieu en Espagne, une transition plutôt douce, sans trop de victimes, enfin en tout cas sur le papier, parce que dans les faits il y en a eu, disons c'était un des effets attendus. Lorsque vous ne résolvez pas les problèmes sur le moment, ils ont tendance à rester larvés et au bout d'un moment, il faut les affronter. Donc, évidemment, il y a une utilisation très stratégique, mais de la part des deux bords, hein, je dirais.
Retour en plateau, Nassima Baron, sur les crispations politiques qui se nouent autour de cette question du mausolée de Franco.
Alors c'est le mausolée de Franco, Valle de los Caídos, c'est un symbole politique, mais c'est aussi un lieu religieux. Et Sanchez affronte aussi une problématique qui est un petit peu celle aussi de la relation entre l'État et le clergé et la puissance catholique d'Espagne, qu'il faut quand même poser aussi, parce que tant qu'on sache, Franco n'est plus, et ce sont une communauté monastique qui aujourd'hui a la charge de l'entretien de cette de ce mausolée, des moines bénédictins, je crois, qui d'ailleurs sont sous l'autorité de l'abbaye de Solesme, donc qui ne font pas, eux, ce qu'ils veulent et qui disent qu'il faut aller chercher des autorités extérieures, le Vatican, d'autres communautés monastiques. Et donc là, on a un État aussi qui est face à une complexité qui peut être aussi une complexité, j'allais dire, un peu opérationnelle pour sortir d'une très longue période où, en fait, c'est peut-être choquant, mais l'État espagnol continue de financer publiquement l'entretien de ce monument.
En tout cas, le transfert de la dépouille de Franco avait été annoncé pour le 10 juin par les socialistes. On peut imaginer que cette question risque de beaucoup évoluer en fonction des résultats du scrutin.
Oui, bien évidemment.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí.
On se quitte sur cette magnifique chanson Malamente de Rosalia, un choix musical signé Maider Gérard. Merci beaucoup à nos invités. Merci Jean-Baptiste Arguedengui, vous étiez avec nous au téléphone depuis Séville. Je rappelle, professeur de sciences politiques à l'université Pablo de Olavide. Merci à vous Nassima Baron, je rappelle géographe, enseignante à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je rappelle votre ouvrage coécrit avec Barbara Loyer de l'Espagne en crise, une géopolitique du 21e siècle aux éditions Armand Collin. Et merci à vous, Hubert Pérez. De votre côté, je rappellerai l'ouvrage La démocratie espagnole, institutions et vie politique. Merci encore aux équipes de France Bleu Héros à Montpellier pour le duplex.
perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Ah, sí, sí.
Et tout de suite, c'est le tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors il y a un cas, Eric Hobsbawm, immense historien britannique traduit dans le monde entier, mais politiquement contesté.
Oui, à la fin de sa longue vie, il est mort en 2012 à l'âge de 95 ans, Eric Hobsbawm était sans doute l'historien le plus célèbre de son temps. Ses livres avaient été traduits dans plus de 50 langues, ils avaient été vendus à plusieurs millions d'exemplaires, 1 million rien qu'au Brésil. Et pourtant, dans bien des milieux, Hobsbawm avait une réputation sulfureuse. Pourquoi ? Parce que ce professeur britannique, devenu riche et célèbre au terme de sa carrière, a été toute sa vie un communiste convaincu. Même les révolutions de 1989 en Europe centrale n'avaient pas ébranlé ses convictions. Je l'ai entendu moi-même en 1993 à LSI, devant des centaines d'étudiants enthousiastes, répéter qu'il n'avait aucun regret pour les purges. Hobsbawm passait pour un stalinien sans remords. Qu'en était-il ? Eh bien, un autre grand historien britannique, Richard Evans, s'est penché pour The Guardian sur le cas Eric Hobsbawm. Non seulement il connaît fort bien l'œuvre de son aîné, mais Evans a examiné en détail son autobiographie qui s'appelle Interesting Times, publiée en 2002. Il semble en outre avoir eu accès au dossier Hobsbawm, constitué et conservé par les services de contre-espionnage britannique, le fameux MI5. Il relève le rôle qu'a joué d'ailleurs ce service à certaines occasions pour bloquer certaines prestations de Hobsbawm à la BBC. En 1945, celui-ci avait posé sa candidature à la radio publique et elle était en bonne voie. Veto du MI5. Cet homme est un dangereux communiste. Nouvelle objection du service en question pour lui confier un documentaire sur la guerre du Vietnam dans les années 60.
Mais alors quel genre de communiste était Hobsbawm ?
Né à Vienne, de père anglais, Hobsbawm est emmené à Berlin par un oncle et une tante après le décès précoce de ses deux parents. À 14 ans, il manifeste avec le KPD contre les nazis. C'est le début d'une immersion dans le communisme qui durera toute sa vie en effet. En 1933, sa famille d'adoption, donc d'origine juive, fuit l'Allemagne nazie pour la Grande-Bretagne. Il adhère alors au Parti communiste de Grande-Bretagne. Mais après avoir connu les manifestations monstres du KPD, son énorme influence sur la classe ouvrière allemande, il juge le Parti communiste britannique comme une secte. La ligne est ouvriériste et les intellectuels dans son genre sont mal vus. Or, ce brillant étudiant de Cambridge, Eric Hobsbawm donc, est surtout un énorme dévoreur de littérature marxiste. Après la guerre, il fait partie du Communist Party Historians Group, un cénacle prestigieux puisqu'il compte des personnalités comme ses collègues E.P. Thompson, l'auteur de la fameuse « Formation de la classe ouvrière anglaise » et de Christopher Hill, qui est sans doute moins connu en France. Mais comme l'écrit Richard Evans, il ne fallait pas compter sur lui pour vendre la presse du parti dans les rues. Ce qui l'intéressait, Hobsbawm, c'était les discussions théoriques avec d'autres historiens marxistes. Après le discours mettant en cause les crimes de Staline prononcés par Khrouchtchev en 1956, le groupe des historiens communistes britanniques envoie aux dirigeants de leur parti un texte exigeant une reconnaissance des erreurs passées et un changement de ligne. Sans effet. La violente répression de la Hongrie par l'armée rouge provoque la rupture de beaucoup d'intellectuels britanniques, pas celle d'Hobsbawm. Malgré la sauvagerie de la répression qui fait 2500 morts, il juge que l'invasion était une tragique nécessité et il se contente de souhaiter que les troupes soviétiques se retirent aussitôt qu'elles ne seront plus nécessaires. Evans montre comment Hobsbawm s'est comporté envers le parti. Il a toujours ménagé ses critiques envers la direction de manière à éviter l'éviction ou la démission forcée. Cet orphelin avait terriblement besoin d'une famille. Le communisme lui en a procuré une. Il aurait eu des tendances euro-communistes dans les années 70 et dans les années 80. Il aurait conclu d'une lecture de Gramsci que la classe ouvrière britannique ne pouvait espérer bâtir le socialisme sans passer des alliances avec des éléments de la classe moyenne, ce qui ferait de lui une des inspirations de la ligne adoptée alors au Parti travailliste par Neil Kinnock, admettons.
Et Brice, quel rôle a joué l'engagement communiste de Eric Hobsbawm sur son travail d'historien ?
Très faible en réalité, selon Richard Evans. Pour lui, si Hobsbawm a subi une influence intellectuelle déterminante, eh bien c'est celle de l'école française des annales, bien davantage que celle du marxisme britannique. C'est particulièrement évident dans son livre qui s'appelle « L'âge des révolutions ». En tant qu'historien, il est libre et s'écarte de la vision communiste lorsqu'elle ne lui paraît pas convaincante. Ainsi, dans l'ère des empires, c'est encore plus flagrant. Ce qui a intéressé vraiment Hobsbawm et ce qui a fait de lui un précurseur, c'est l'attention qu'il a portée aux marginaux, aux déviants, aux bandits, aux révoltes en apparence irrationnelles, ce qu'il appelait les rebelles primitifs. Il y voyait des précurseurs des grandes révoltes ouvrières. C'était ces rebelles qui l'intéressaient en particulier, comme lui, des marginaux.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à réécouter et à retrouver comme d'habitude sur franceculture.fr.